إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ كتاب أصول في التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وبحمد الله عز وجل قد درسنا باب من أصول في التفسير المكي والمدني، وفي هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ترتيب القرآن، ترتيب القرآن، وذكر أنه ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات، ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية. donc on poursuit بإذن الله عز وجل notre étude du livre شرح أصول في التفسير للإمام الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. et nous sommes toujours dans le chapitre ou plutôt nous avons terminé la semaine dernière l'explication du chapitre concernant يعني l'ordonnance du Coran, les points concernant l'ordonnance des sourates du Coran, de ses versets, de ses mots, etc. Donc le cheikh, l'auteur rahimahullah ta'ala, a dit que l'ordonnance du Coran est de trois catégories. Donc la première, l'ordonnance des mots, l'ordonnance au niveau des mots, de sorte à ce que chaque mot soit à sa place dans le verset. Chaque mot doit être à sa place dans ce verset. قال ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. Il dit on ne connaît aucun avis, aucune parole contredisant le fait que il est obligatoire de respecter l'ordonnance des mots dans le Coran, et qu'il est interdit donc de donner un ordre différent que celui qui a été rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran. والنوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، فهذا كذلك واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ مثلا مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. deuxième catégorie d'ordonnance dans le Coran au niveau des versets, de sorte à ce que chaque verset soit à sa place dans la sourate. Donc là également, il est obligatoire, selon l'avis, bien sûr, le plus correct, de respecter cette ordonnance-là, et le fait qu'il est interdit également de contredire cette ordonnance au niveau des versets. Par exemple, il sera interdit de dire « Maliki yaoumiddin ar-Rahman ar-Rahim » au lieu de « Ar-Rahman ar-Rahim Maliki yaoumiddin » Jayid, هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد، فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. نعم. جيد. بيجي للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى que la troisième catégorie d'ordonnance, celle qui concerne les sourates. Il dit donc de sorte à ce que chaque sourate dans le mushaf doit être à sa place dans l'ordre yani, qui a été rapporté ici par les sahaba. Il dit que cet ordre-là, cette ordonnance-là n'est pas obligatoire. N'est pas obligatoire en portant le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman hein, qui a prié avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam une nuit. Et le prophète l'a récité dans cet ordre-là, Al-Baqara, puis Al-Nisa, puis Al-Imran. Alors que dans le Mus'haf, normalement, l'ordre que nous connaissons, que nous avons dans le Mus'haf, c'est Al-Baqara, puis Al-Imran, puis Al-Nisa. Lakin as-sawab, annahu la yajuz kitabatu al-ayah, ou al-ayat al-Qur'aniya, ou la sourate al-Qur'aniya, ala ghayri al-tartib al-ma'hud, illa idha arada al-insanu, كتابة صور ليس على جهة كونها المصحف يعني المصحف أي نعم جيد mais ce qui est correct à ce niveau là c'est que malgré ça il est interdit d'écrire que ce soit les versets coraniques ou les sourates du Coran dans un ordre différent que l'on connaît habituellement dans le mushaf actuel sauf si bien sûr la personne elle va écrire des sourates dans un ouvrage, dans un livre, pas avec l'intention d'écrire un mushaf, mais avec l'intention, maintenant, du tafsir, de certaines sourates, de certains versets, et ainsi de suite, parmi les ouvrages où on pourra, bien sûr, mentionner les versets d'Allah ou les sourates d'Allah dans un ordre différent. Il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala. Jayyid. فننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى باب كتابة القرآن وجمعه. باب كتابة القرآن وجمعه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة فلذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف وكان القراء عددا كبيرا. يجي الأوتار العثيمين رحمه الله تعالى. Donc cinquième chapitre, l'écriture du Coran et son assemblage. Donc pour l'écriture du Coran ainsi que son assemblage, il dit le Cheikh, il y a eu trois étapes. La première étape, à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc à cette époque-là, les gens s'appuyaient à cette étape sur la mémorisation, plus que le fait de se reposer sur l'écriture. Et cela donc grâce à la force de la mémorisation des gens à cette époque et également à la vitesse à laquelle ils arrivaient à mémoriser les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et également aussi grâce ou à cause du fait qu'il y avait très peu de gens qui écrivaient et enfin à cause également du fait qu'il y avait très peu de moyens d'écriture. Donc ici le cheikh il a énoncé quatre causes du fait que les gens, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils se reposaient plus sur la mémorisation que sur l'écriture des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première cause, le fait que les gens avaient une très forte mémorisation. Ils avaient une aptitude très forte, très développée, à mémoriser. Deuxième raison, la vitesse à laquelle ils arrivaient à mémoriser. La troisième raison, la petite quantité de gens qui écrivent. Al-Katibin, ceux qui écrivent les scripts. Il y en avait peu. Et la quatrième raison, il y avait également peu de moyens d'écriture. Voyez, c'est pour ça que à cette époque-là, les versets d'Allah n'ont pas été rassemblés dans un mushaf comme il l'est aujourd'hui. Mais chaque personne qui entendait un verset, eh bien, il le mémorisait. Chaque personne qui entendait un verset, elle le mémorisait ou elle l'écrivait. Hein, selon ce qui lui était facilité. Par exemple, elle écrivait sur des branches de palmiers ou des morceaux de peau d'animal ou des pierres, des genres de pierres larges, plates et fines sur lesquelles ils écrivaient les versets ou sur des os de chameaux, de vaches ou de moutons. Hein, l'actaf. Et donc, avec tout ça, le nombre de qurra, de récitateurs, de gens qui avaient mémorisé les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce nombre était très grand, mashallah, alhamdulillah. Fa fi sahih al-Bukhari, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ba'atha 70 rajulan, yuqalu lahum al-qurra, fa'arada lahum hayyan min bani Sulaym. رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن الثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. يدير الشيخ رحمه الله dans l'authentique de البخاري selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé 70 hommes, qu'on a appelé donc, al-qurra, les récitateurs, les mémorisateurs du Coran, 70. Il les a envoyés faire da'wah. Puis, deux groupes, parmi la tribu de Sulaym, notamment le clan de Ri'l et le clan de Dhakwan, les ont interceptés auprès du puits qu'on appelle Bi'ru Ma'una, le puits de Ma'una. Et ils les ont tués. Ils ont tué les compagnons, les récitateurs du Coran, 70, subhanallah, radiyallahu anhum. Et parmi les sahaba, radiyallahu anhum, hormis les 70, il y avait aussi de nombreux autres compagnons qui mémorisaient le Coran, tels que les quatre califes, bien sûr. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Ou Abdullah ibn Mas'ud. Il y avait Salim, l'esclave franchi de Abi Hudhayfa. Il y avait Ubay ibn Ka'b. Il y avait Mu'adh ibn Jabal. Il y avait Zayd ibn Thabit. Il y avait Abi Darda. Donc ils étaient nombreux à avoir mémorisé le Coran. Alhamdulillah Azza wa Jal. Radiallahu anhum. Faqala al-Sheikh al-Uthaymin رحمه الله تعالى هذه المرحلة الأولى وهي كتابة القرآن وتعتمد على الحفظ أكثر من الكتابة للأسباب التي ذكرناها في هذا. أولا قوة الذاكرة، فإن الذاكرة في الصحابة قوية جدا، لا يكاد الواحد منهم ينسى ما حفظه. دونك يجيب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى pour résumer cette première étape. Il dit la première étape, donc, c'est l'écriture du Coran. Mais cela se faisait assez peu. Pourquoi ? Parce que les gens se reposaient plus sur la mémorisation que sur l'écriture. Hein, pour les causes que nous avons mentionnées. Vous voyez, parmi ces causes, on a dit la forte mémorisation des compagnons, qui était vraiment une mémorisation très forte, hein, jusqu'à ce que chacun d'entre eux, lorsque ils entendaient un verset, ils ne l'oubliaient pas. Ils le mémorisaient et ne l'oubliaient pas. الثاني سرعة الحفظ فإن حفظهم سريع ولهذا تجد الواحد منهم يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ صفحة أو صفحتين مع أنه لم يسمعه إلا مرة واحدة. نعم. Deuxième raison pour laquelle les gens se reposaient plus sur la mémorisation, hein? Il dit la vitesse justement à laquelle il mémorisait. Donc il mémorisait que ce soit les versets d'Allah ou les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam très rapidement. C'est pour cela que tu vois, yani, que les sahaba, ils rapportent des fois des hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui pouvaient être un hadith qui peut remplir une page, voire même deux pages entières. Hein, eh bien, il rapporte ce hadith-là alors qu'il ne l'avait entendu qu'une seule fois. Il ne l'avait entendu qu'une seule fois de la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, eh bien, il le mémorisait malgré peut-être sa longueur, une page ou deux. Subhanallah. ومنها أيضا قلة الكاتبين ووسائل الكتابة. فالكتاب كانوا قليلين. ووسائل الكتابة أيضا قليلة لم يكن يوجد ورق ولا حبر ولا أقلام فلذلك صاروا يعتمدون على الحفظ لأن الحاجة أم الاختراع فإذا احتاج الناس إلى الحفظ صارت حافظتهم قوية لأنهم يعتمدون عليها ولهذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الآلة الحاسبة تجدونهم يقل تصورهم للأشياء ومعرفتهم بها ولما ظهر الكمبيوتر في الفرائض أشرنا على الذين أخرجوه بأن لا يخرجوه على وجه عام شامل لأن هذا يميت أذهان الطلبة مرة واحدة دع الطلبة يفكرون ويقدرون ويحلون المسائل بأنفسهم دون الاعتماد على الآلة الحاسبة فلما قلت الوسائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الكتابة يحتاج الناس إلى الحفظ فحفظوا. نعم. Et enfin donc troisième et quatrième cause, le fait qu'il y avait peu de scribes et peu de moyens justement scripturaux. D'accord? Donc les scribes étaient peu nombreux, ainsi que les moyens d'écriture également étaient peu nombreux. Il n'y avait pas beaucoup, ou des fois il n'y avait pas du tout, ni de feuilles, ni d'encre, ni de plumes pour écrire. C'est pour cela que, à cette époque-là, ils se sont reposés sur la mémorisation. Comme on dit, hein, la nécessité est la mère de l'innovation, ou la mère de l'invention. Vous voyez, donc, les gens ici, ils avaient besoin de ça, car c'était nécessaire, c'était une nécessité pour eux, ils n'avaient pas le choix. Ils devaient mémoriser pour ne pas que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala se perde. Et c'est pour ça que leur mémorisation était une excellente, très forte. Pourquoi? Car ils se reposaient vraiment que sur ça. Ou, sur ça plus que sur l'écriture. Pour ça, il dit les chers, une faïda qui est importante, qui est mashallah. Aujourd'hui, tu trouves des gens qui vont s'appuyer que sur les calculatrices pour, yani, calculer. Ils vont se reposer sur les calculatrices. Aujourd'hui, on pourrait dire, donc, sur les moyens, yani, modernes, technologiques, Internet, etc., etc. Et tu les vois, donc, ces gens-là qui se reposent sur ces calculatrices ou ces ordinateurs ou autres, eh bien, tu vois qu'ils ont une difficulté à mémoriser, une difficulté particulière à concevoir des choses dans leur esprit et à les connaître. Hein? Également, donc, lorsque, dit les chers, lorsque les ordinateurs ont commencé à être propagés dans les écoles, etc., il dit les chers que nous avons recommandé à ce que ce ne soit pas propagé de manière totale et absolue pour que ces ordinateurs-là, ces moyens technologiques, ne détruisent pas, dit les chers, ne détruisent pas l'esprit des élèves. L'esprit de raisonnement, l'esprit de mémorisation, l'esprit de conception des élèves. Il dit les chers, laisse les élèves réfléchir eux-mêmes. Laisse les élèves calculer, compter, trouver les solutions à des problèmes par eux-mêmes, sans se reposer sur un outil tel que la calculatrice, tel que l'ordinateur, tel que Internet et autres et autres. Et donc il dit par conséquent, lorsque les moyens d'écriture existait peu ou pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les gens ils avaient donc cette nécessité là qui était de mémoriser et c'est ce qu'ils ont fait. Bihamdillahi azza wa jal. Thumma yaqul al-mu'allif rahimahullah al-marhalah ath-thaniyah fi 'ahdi Abi Bakr رضي الله عنه في سنة الثانية أو في سنة الثانية عشرة من الهجرة وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم نعم فأمر أبو بكر رضي الله عنهم بجمعه لئلا يضيع ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف تورعا فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي للرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب ومن العسب واللخاف وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله عز وجل ثم عند عمر طيلة حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما رواه البخاري مطولا وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله سبحانه طيب جيد donc la deuxième étape au niveau de l'écriture du Coran à l'époque de Abu Bakr après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam à l'époque du califat, du khilafa, de Abi Bakr, radiallahu anhu, c'était donc à la 12e année de l'Hégire. Donc un an après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, ce qui a causé cette deuxième étape-là, le fait qu'un nombre important également de lecteurs et de récitateurs du Coran ont été tués lors de l'événement de Al-Yamama. Parmi les Qurras qui ont été tués, parmi eux, Salim, le Mawla, l'esclave affranchi de Abi Hudhaifa. Qui fait partie également de l'un de ceux pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on prenne le Coran d'eux. Donc, cette deuxième étape-là, Abu Bakr, radiallahu anhu a ordonné que l'on rassemble le Coran pour pas qu'il se perde comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'authentique selon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui a donc indiqué lui-même à Abu Bakr, donc son khalif, à son calife à l'époque, de rassembler le Coran après justement l'événement de Al-Yamama. Je vous le rappelle, durant lequel beaucoup de récitateurs et de lecteurs ont été tués. Parmi eux, donc, Salim, Mawla Abi Hudhayfa. Et Abu Bakr, au début, donc, il n'a pas voulu, il s'est abstenu de rassembler le Coran par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par peur de faire quelque chose qui n'est pas permis. Et Omar, lui, il n'a cessé de le conseiller en cela, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert le cœur de Abi Bakr pour qu'il fasse cela. Et donc, lorsqu'il a accepté, Abu Bakr, il a envoyé chercher Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, et Zayd ibn Thabit vint à lui. Et il y avait donc auprès de lui Omar radiallahu anhu ajma'in. Et là, Abu Bakr, il lui a dit, certes, il a dit à Zayd ibn Thabit, certes, tu es un homme jeune et intelligent, et nous ne t'accusons ni d'oublier, tu n'es pas quelqu'un qui oublie ou qui a oublié les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, tu étais quelqu'un qui écrivait la révélation pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit à Abu Bakr, à Zayd ibn Thabit, va donc à la recherche des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été écrites, Jayid, sur, on a dit, les feuilles, sur les pierres, sur les branches, sur les os, etc., et rassemble-les. Donc il dit, Zayd ibn Thabit, je suis parti donc à la recherche du Coran, de tous les versets coraniques qui étaient écrits, et je les ai rassemblés, que ce soit les versets écrits sur le usub, c'est-à-dire les branches, sur l'ikhaf, les pierres, et également, bien sûr, ce qui était mémorisé dans le cœur des gens. Et donc, ces suhuf, donc ces masahif, ces suhuf, ces feuilles rassemblées par Zayd ibn Thabit, sont restées auprès de Abi Bakr, radiallahu anhu, jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, donc, a fait mourir son serviteur Abu Bakr. Puis ces suhuf, ces feuilles là où donc ont été écrits les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont restés auprès de Omar, donc le deuxième calife de l'islam, toute sa vie. Et puis après la mort de Omar, ils sont restés auprès de Hafsa, la fille de Omar. Hafsa, la fille de Omar, radiallahu anha. Comme cela a été rapporté par l'imam Al-Bukhari dans une version longue. Non. Et donc les musulmans se sont mis d'accord sur le fait que Abu Bakr a fait une bonne action en faisant cela, en ayant réuni les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans des suhuf, sur des pages, sur des feuilles, et considère cela comme étant parmi les bonnes actions de Abu Bakr radiallahu anhu, jusqu'à ce que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il a dit, la personne qui a le plus de récompenses par rapport aux masahif qui existent aujourd'hui, les masahif, Jayid, qui a le plus de récompenses, eh bien c'est Abu Bakr. Puis il dit rahmatullah, que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Abu Bakr, car c'est le premier qui a réuni et qui a rassemblé les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يقول الشيخ المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في سنة 25 وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف أو في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله ويتفرقوا. La troisième étape, donc à l'époque du chef des croyants Othman ibn Affan radiallahu anhu, Donc cela s'est passé à l'année 25, à l'année 25 de l'Égir. Et la cause ici de l'action de Uthman, radhiyallahu anhu, était donc l'apparition de divergences. L'apparition de divergences concernant la lecture du Coran. En fonction donc des différents suhuf, des différentes pages, hein, qui étaient écrites et qui étaient entre les mains des compagnons. Radiallahu anhum. Et donc, il a eu peur que apparaissent des troubles et des dissensions au sein des compagnons à cause justement des différentes lectures qui existaient. Les différentes lectures qui existaient, qui ont été rapportées de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Uthman a décidé d'ordonner à ce qu'on réunisse tous ces suhuf, toutes ces pages et ces feuilles dans un seul mushaf. Dans un seul mushaf. Dans le but, hein, dans le but que les gens ne divergent pas et ne se disputent pas au sujet du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et se divisent à cause de cela. Fi Sahih al-Bukhari, أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القراءة فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ففعلت فأمر زيد ابن الثابت وعبد الله بن الزبير والسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف وكان زيد ابن الثابت أنصاريا والثلاثة قريشيين أو قرشيين وقال عثمان لرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن الثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف كما أو بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق أن يحرق وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما أو لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منها أو إلا عن ملأ منا قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف ولا فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رأيت فقال مسعب ابن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها وكانت مكملة للجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. La troisième étape, on l'a dit à l'époque de Uthman. Il a rapporté à l'imam al-Bukhari dans l'authentique que Hudhayfa ibn al-Yaman donc est arrivé est parti à la rencontre de Uthman ibn Affan radiallahu anhu lorsqu'il était en train de préparer donc des sorties avec les gens du Sham, notamment au sujet de les deux pays appelés Arménie ou Azerbaïdjan. Et il lui a fait savoir donc qu'il était, entre guillemets, effrayé par les divergences des Sahaba au niveau des lectures du Coran. Et il lui a dit, au chef des croyants, Yani Othman, au chef des croyants, adrik hadhihi al-umma. Yani fait savoir à cette communauté avant que elle ne diverge concernant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une divergence identique à celle des juifs et des chrétiens. Donc Othman, il a écouté et il a, premièrement, il a envoyé à Hafsa bint Omar radiallahu anhuma, la fille de Omar et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: envoie-moi les suhuf, envoie-moi toutes les feuilles que tu as où sont écrits les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va les recopier et reproduire tous ces versets-là dans des masahif. Dans des masahif jusqu'à aujourd'hui, que l'on retrouve aujourd'hui, donc, ces versets-là dans des masahif, des livres, hein, dans lesquels il n'y a que les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il lui dit, puis nous allons te les renvoyer dans ces masahif. C'est ce qu'elle a fait. Puis il a ordonné à Zayd ibn Thabit, ainsi qu'à Abdullah ibn Zubayr, ainsi qu'à Sa'id ibn al-As, ainsi qu'à Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, Jayid, de faire la même chose. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris tous les suhuf et les ont rassemblés, les ont écrits dans des masahif, dans des livres reliés, Jayid, où on pouvait retrouver tous ces versets-là. Le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut savoir que Zayd ibn Thabit, il était Ansari, c'était un Ansari. Zayd, alors que les trois autres, c'est-à-dire Abdullah ibn Zubayr, Sa'id ibn al-As, Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, étaient des Qurashi, des gens de Quraysh. Donc il y avait leur façon de parler, leur arabe, et les Ansari avaient leur arabe. Zayd, donc il lui a dit, ou il leur a dit, le Coran a été descendu bilisanihim, c'est-à-dire avec par la langue, ou dans la langue plutôt, dans la langue des Qurashiyin, de Quraysh. C'est-à-dire que la majorité du Coran a été descendue dans la langue des Qurashiyin, la façon de parler des Qurashiyin. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi à l'ordre de Uthman. Ils ont donc recopié tous les suhuf dans la langue des Qurashiyin dans les masahif. Et Uthman, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a envoyé tous ces masahif et les a envoyés à Hafsa radiallahu anha. Et il les a envoyés également à tous les coins, à tous les pays, les contrées musulmanes. Hein? Il leur a envoyé donc à chacun un mushaf à partir duquel donc ils ont écrit tous les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la langue des Qurashiyin. Non? Et il a ordonné par la suite que tout ce qui a été écrit des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans des livres ou des pages, et qui ne sont pas conformes à cette écriture-là, à cette version du Coran, il leur donnait que ce soit brûlé. Que ce soit brûlé pour justement éviter que des troubles apparaissent et des dissensions apparaissent à cause des différentes lectures qui existaient à l'époque. Et on ne parle même pas des différentes lectures qu'il y a aujourd'hui, hein, celles que l'on connaît aujourd'hui, les différentes, la lecture selon Hafs, la lecture selon Warsh, la lecture selon Qaloun, la lecture selon un tel ou un tel. Là. Non, on parle des différentes lectures qui existaient et que l'on ne connaît pas nous aujourd'hui, mais qui existaient bel et bien. Et donc Uthman, radiallahu anhu, il a fait cela bien sûr après avoir consulté les compagnons. Hein? Après avoir consulté les compagnons, comme l'a rapporté Ibn Abi Dawud, rahimahullah, vraiment selon Ali, qui a dit que par Allah, ce qu'il a fait Uthman, il ne l'a fait ni au niveau des masahif, il l'a fait seulement après avoir consulté les notables parmi nous, les sages parmi les compagnons, radiallahu anhum. Puis il dit, je vois que le fait de rassembler les gens autour d'un seul mushaf, d'un seul et même mushaf, eh bien cela est une cause qui fait que il n'y ait pas de division et pas de divergence entre les musulmans. Puis il a dit, nous avons dit, فَنِعْمَ مَا رَأَيْتِ. Et quelle belle chose que ce que j'ai vu. C'est-à-dire, quelle belle chose que ce qu'a fait Uthman, radiallahu anhu. Il a dit, Mus'ab ibn Sa'd, il a dit, j'ai rencontré les gens qui étaient très nombreux lorsque Uthman, il a fait brûler les masahif. Lorsqu'il a fait brûler toutes les pages et les masahif dans lesquelles il y avait des autres versions que celles de Quraysh, il les a fait brûler. Et cela, yani, a beaucoup plu aux gens. Il a dit cela, donc à l'époque, les musulmans étaient heureux de cela. Car ils savaient que derrière, il y avait un bien énorme, une maslaha immense dans la communauté. Et il dit, personne n'a désapprouvé Uthman. Lam yunkir dhalika minhum ahad. Aucun compagnon n'a désapprouvé Uthman dans cette action-là. Au contraire, ils disent que cela fait partie des bonnes actions du chef des croyants, Uthman, radiallahu anhu, hein, avec lequel étaient d'accord donc les musulmans. Et son travail vient compléter en vérité le travail du calife précédent qui était Abu Bakr, radiallahu anhu. Donc Abu Bakr, lui, avait commencé donc à rassembler tout ce qui était écrit sur les os, les branches, dans la poitrine des hommes, etc., mémorisé. Il les a rassemblés dans des feuillets. Puis Uthman, lui, est venu compléter et conclure ce travail-là. Il les a rassemblés dans des masahif et dans une seule et même lecture, une seule harf. Hein, comme vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le Coran dans sept harf, sept versions différentes. Et donc Uthman, lui, il les a rassemblés, yani, et il les a rassemblés dans une seule harf, une seule lecture, et c'est celle que nous avons aujourd'hui entre les mains. Bihamdillahi azza wa jal. Yaqul al-Shaykh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala yu'khadhu min fi'l Uthman wa ghayrihi min al-khulafa أن شيء وإن كان مشروعا إذا كان يخشى منه الفتنة فإن الأولى تركه بل قال يجب تركه إذا كانت الفتنة كبيرة وهذه المسائل قل من يتفطن لها بعض الناس يقول سأفعل السنة ولو حصل ما حصل ولو بسفك الدماء وهذا غلط عظيم لأن أصل الشريعة مبني على جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذه قاعدة أود منكم يا طلبة العلم أن تكون لكم على بال وأن لا تهملوها وأن لا تغفلوا هذه القاعدة العظيمة. جل الشيخ الثيمين رحمه الله تعالى on tire de ce qu'a fait Uthman رضي الله عنه énormément de leçons. Parmi ces leçons, parmi ce qu'ont fait également les autres calife, yani, tel qu'Abu Bakr, Omar et Ali, que même si la chose elle est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais que cette chose-là qui est légiférée, on craint que si elle demeure ou si elle est accomplie, ça amène une fitna, des troubles, des dissensions au sein de la communauté. Et bien dans ce cas-là, il sera préférable de la délaisser, de délaisser cette chose-là, même si elle est légiférée. Des fois même, il dit les chers, il sera même obligatoire de la délaisser si jamais, à cause d'elle, il y a une fitna énorme, des troubles immenses ou des dissensions yani, très nocives. Et donc, ces points-là, en vérité, il dit les chers, peu de gens les comprennent. Peu de gens comprennent cela. C'est pour ça que des fois, tu entends des gens dire des choses, Allah Musta'an, ils te disent, moi, je vais pratiquer la sunna, même si cela engendre ce que ça engendre. Moi, je vais pratiquer la sunna, même si cela engendre ce que ça engendre. Même si cela engendre l'effusion de sang, des morts, ou des combats, ou des guerres. Là, ça, c'est une énorme erreur. Parce que le fondement de la charia, il est bâti sur Au contraire, le fait de faire venir le masalih, qu'il y ait des choses qui sont bénéfiques à la communauté. Ça, c'est la base de la charia. Apporter un intérêt, des profits à la communauté. Permettre à la communauté d'acquérir et d'obtenir ses profits. Et également, la base de la charia est au contraire de repousser tout ce qui pourrait nuire et tout ce qui pourrait amener le désordre, le chaos, les troubles au sein de la communauté ou au minimum les diminuer. C'est pour cela que ça c'est une règle, une qa'ida, une règle. Il dit le cher que j'aimerais que vous les étudiants en sciences, yani, compreniez et que vous gardiez à l'esprit et que vous ne négligiez pas et que vous n'en soyez pas insouciant au niveau de cette règle, la qa'ida al-azima. قال الشيخ فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام خوفا من الفتنة وكذلك أيضا عثمان ترك إبقاء القراءات على ما هي عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كل ذلك اتقاء الفتنة لأن جمع كلمة المسلمين أمر مهم. C'est pour ça que le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, il s'est abstenu de reconstruire la Kaaba sur les fondations d'Ibrahim. Sur les fondations sur lesquelles Ibrahim, alayhi salam, avait à la base construit la Kaaba. Jayyid. Donc il aurait pu le faire, et ça aurait été quelque chose qui est légiféré. Mais il s'est abstenu de faire cela par peur de semer al-fitna, le trouble, les dissensions, les conflits entre les musulmans. Hein? Pour pas que les gens disent de lui qu'il a cassé la Kaaba, des choses comme ça. Alors qu'il aurait pu le faire. Cela lui aurait été yani, légiféré de faire cela. Mais il a préféré s'en abstenir pour ne pas semer le trouble au sein des musulmans. Et donc Uthman également, lui aussi, a délaissé le fait de garder toutes les qira'at, toutes les lectures qui existaient à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Abi Bakr, à l'époque de Omar, radiallahu anhumah. Tout cela, pourquoi? Pour préserver la umma de la fitna. Préserver la umma des troubles, des conflits, des querelles. Hein? Pourquoi? Parce que le fait de rassembler les musulmans est une priorité. Et rassembler les musulmans sur une seule et unique parole est une chose qui est يعني نسيسير وكريسيال. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. والعلم عند الله. وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.